France Info.
Et votre invitée média, Céline Baydarcourt, est la directrice de la rédaction des Inrecuptibles. Le magazine propose ce mois-ci un dossier de 40 pages sur les États-Unis avec la star Taylor Swift en couverture.
Bonjour Carole Boinet.
Bonjour.
Quand on propose une spéciale USA et qu'on est un mensuel musical, c'est forcément la star Taylor Swift qu'on choisit pour la couverture ?
Forcément. Alors déjà, mensuel culturel, attention. Mais Taylor Swift, pour moi, c'est un phénomène trop global, en fait, pour ne pas s'y intéresser, ne pas s'en emparer, ne pas prendre la parole dessus. Taylor Swift, maintenant, c'est quand même la première artiste qui est devenue milliardaire juste avec les revenus de sa musique. Donc, c'est vraiment incroyable. Et puis, elle a vraiment un poids, une influence qu'on raconte dans le dossier sur la politique.
On cherchait juste avant l'interview, toutes les deux, quelle star américaine, femme,
Beyoncé.
Alors, c'est exactement ce que j'ai dit.
Oui,
Carole n'était pas forcément d'accord.
Les chiffres sont pas les mêmes. C'est-à-dire que Taylor Swift vend plus d'albums, fait plus de streams. Sa tournée, même le Eras Tour, est plus important, en tout cas en termes de revenus économiques, que celui de Beyoncé. Mais voilà, il y a débat ensuite. Et puis Taylor Swift, je crois qu'elle réunit. C'est-à-dire que c'est vraiment un moment, un dénominateur commun aux États-Unis. J'ai l'impression qu'elle réunit des personnalités très différentes aux États-Unis. C'est ça aussi qui se passe avec Taylor Swift.
Elle est country, elle est pop. Mais en quoi est-elle rebelle ? C'est comme ça que vous aimez définir les Inrock. Qu'est-ce qu'elle a de rebelle, Taylor Swift ?
Pour moi, en fait, elle a de rebelle ce moment en 2018 où elle décide en fait de prendre une position politique, c'est-à-dire de critiquer une sénatrice du Tennessee qui elle-même en fait ne soutenait pas, on va la faire courte, les droits des femmes. Et Taylor Swift en fait s'y oppose. Puis en fait, elle appelle à voter Biden en 2020. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un vrai tournant Taylor Swift, c'est-à-dire qu'elle passe de cette image très lisse de la pom-pom girl qui a fait de la country, etc., la petite chérie de l'Amérique, à en fait une jeune femme, une jeune artiste très engagée. Qui commence en fait à ouvrir sa gueule.
Avec une couverture et Taylor Swift, vous espérez peut-être attirer de nouveaux lecteurs ?
Oui, je pense que cette couverture peut attirer des lecteurs plus jeunes, en tout cas peut montrer que les Inrecuptibles s'intéressent à des sujets, on va dire, globaux, parce que j'aime pas tellement le terme de mainstream, mais des sujets qui sont concernants pour la société française, pour l'international, etc. Les Inrecuptibles, pour moi, c'est pas qu'un média de niche, c'est un média qui parle aussi de la société comme elle va, du monde comme il va, dans sa globalité, dans son ensemble.
Mais vous ne vouliez plus parler de politique quand vous avez pris la tête de la rédaction. Là, c'est de la politique.
Pour moi, c'est de la politique, mais à travers la culture. C'est-à-dire qu'on ne parlera pas de politique de façon frontale. Il y aura pas un grand article sur Donald Trump, par exemple. Mais pour moi, il y a un article sur la politique aux États-Unis à travers Taylor Swift. Ça, pour moi, c'est les Inrocks.
Alors, on sait que la presse écrite est en souffrance. La presse culturelle et musicale n'y échappe pas. Il y a eu des fermetures de titres, des passages uniquement au numérique, des réductions de pagination. Là, je pense à rock et folk. À quelles conditions ce genre de presse a encore un avenir quand tout le monde va sur YouTube ?
À quelles conditions ? Bah, j'espère que le combat vaut la chandelle. Pour moi, en fait, il faut continuer de le mener. Bien entendu que c'est difficile, je ne vais pas vous raconter le contraire. C'est un contexte de crise assez aigu. On voit très bien que les jeunes générations achètent très peu la presse écrite. Mais pour moi, le combat vaut le coup d'être mené. C'est-à-dire qu'en fait, sortir un objet qui est une sorte de petit monde comme ça, chaque mois, qu'on peut trouver en kiosque, où il y a un début, une fin, il y a un soin particulier aussi apporté au visuel, que ce soit la maquette, les photos, les collages, si on parle du dossier Taylor Swift. Pour moi, en fait, ce petit monde, il vaut vraiment le coup, en fait, de se battre pour continuer de le sortir.
Vous espérez que ça fasse peut-être comme les vinyles qui ont été complètement ringardisés à un moment et qui reviennent et qui deviennent des objets de collection.
Mais vous savez que j'y pense très souvent. Ah oui. Et d'ailleurs, quand on a sorti notre numéro Lana Del Rey l'an dernier avec une interview exclusive en Europe, on s'est aperçu que certains jeunes, en fait, se filmaient sur TikTok en train d'acheter les Inrocks et d'ouvrir leur Inrock Lana Del Rey. Et je pense qu'ils ne connaissaient pas les Inrecuptibles et voilà, ils se filmaient sur TikTok. Et là, il y avait pour moi un choc générationnel qui était hyper important. Il se passait quelque chose. Donc, je pense qu'il peut toujours se passer quelque chose avec la presse écrite. Mmh. Après, une fois qu'on a dit ça, pour moi, il faut travailler aussi de façon globale. C'est-à-dire que les Inrecuptibles, ils a cette qualité en fait d'être un titre très fort, d'être une marque très forte qui peut être déclinée. C'est pas moi qui l'ai inventé, il y a un festival des Inrocks qui existe maintenant depuis 35 ans que j'ai remonté cette année au 104 pendant 5 jours et je pense qu'en fait les Inrecuptibles ça peut comme ça être un festival, ça peut être des concerts, ça peut être un ciné-club, ça peut être des talks auxquels je suis particulièrement attachée. Donc il y a tout ce volet là qui est très important aux Inrocks. Là par exemple, on va sortir un quotidien à Cannes pendant toute la durée du festival. Ouais, gros chantier.
Et donc ce sera la première fois.
Et donc pour moi, c'est ça aussi les Inrocks. c'est pouvoir comme ça inventer des nouvelles formes, parce que c'est un magazine culturel qui à la fois c'est un passeur d'objets culturels, de gestes artistiques, de paroles, mais pour moi c'est aussi un endroit en fait de création. C'est un acteur culturel au sens propre du terme. Moi j'aime créer aussi des formes, créer des choses, créer des rencontres, voilà.
Qui achète les Inrock aujourd'hui?
Alors c'est principalement, on va dire, des personnes bassin parisien, CSP+, encore une majorité masculine, mais c'est en train de se rééquilibrer. Et ça se rééquilibre notamment au niveau des réseaux sociaux. Mmh. Par exemple, sur Instagram, on est plus suivi par des femmes que par des hommes. Donc c'est intéressant de voir en fait ces rééquilibrages aussi s'opérer.
Donc vous ne faites pas les mêmes articles sur le papier et sur le numérique en fonction de qui va le lire ?
Non, on fait quasiment la même chose en fait. Moi, j'essaye en tout cas d'équilibrer tout ça. Je pense que le même contenu doit être disponible à peu près partout. C'est, on a une ligne éditoriale, voilà.
Qu'est-ce qui vous différencie d'un Télérama ?
C'est difficile cette question parce que je pense que c'est l'audace. Enfin, en tout cas, pour moi, Les Inrecuptibles, c'est, je le vois comme un magazine culturel, mais qui peut pas être ennuyeux, qui peut pas être suiveur, qui peut pas juste faire ce qu'on appelle les press junkets, les interviews très
classiques. Vous êtes en train de parler de Télérama, là ?
Non, je parle au global. Je parle de façon globale. Je vais pas me positionner par rapport à Télérama, mais pour moi, en tout cas, Les Inrecuptibles, c'est ça. C'est un monde, en fait, où il se passe des choses, où il y a de la création, il y a des rencontres entre Kim Gordon, Gus Van Sant, entre Camille Etienne et Salomé Sacquet, entre Delphine Orvillain et Joanne Sfar, des rencontres croisées, il y a des numéros Red Chef, comme le Clara Luciani qu'on avait fait il y a 2 ans. Donc pour moi, en fait, j'ai cette volonté de ne pas seulement être dans le côté on suit, on raconte l'actualité, on passe des choses, c'est bien, c'est une partie des Inroc, mais ça peut pas être que les Inroc.
Vous avez pris les rênes des Inroc en 2022, Carole Boinet, après 10 ans passés dans la rédaction, vous avez démarré comme stagiaire. Ouais. Des femmes, on en trouve à la tête de journaux, mais surtout féminins. Est-ce que vous souhaitez que votre expérience, votre parcours ait valeur d'exemple pour les jeunes filles, les jeunes femmes ?
S'il peut avoir valeur d'exemple, moi j'en serais ravie, très heureuse. Moi c'est sûr que j'ai pas grandi avec beaucoup d'exemples comme ça d'une jeune femme qui arriverait à la tête d'un média comme Les Inrecuptibles à 35 ans. Et ça m'a certainement aussi manqué parce que en fait, c'est, on va dire que ces symboles-là, ils permettent de se dire que c'est possible. Et donc si je peux dire aux jeunes femmes que c'est possible, ouais, moi j'en serais hyper ravie.
Mais ça a été difficile.
D'accéder aux Inrecuptibles, on va dire que j'ai dû travailler, ouais. Ouais, j'ai quand même dû travailler. Et de toute façon, le sexisme se niche dans tous les endroits de la société, dont dans les endroits des médias. Oui, bien entendu, il faut quand même convaincre des gens qu'on en est capable. Et la parole d'une femme, je pense, en fait, il y a ça aussi dont on parle très peu. C'est-à-dire que c'est difficile de se faire entendre, d'asseoir sa parole et de dire que qu'on a un savoir, qu'on possède un savoir et que ce savoir peut être entendu, qu'il a une valeur, qu'on a des connaissances. Et c'est tout ça, en fait, sur lequel il faut aussi travailler.
Et ça y est, vous êtes légitime. D'ailleurs, les ventes sont plutôt bonnes pour Les Inrecuptibles. On est à 37 000 exemplaires vendus chaque mois, ce qui est vraiment pas mal vu
Diffusion.
Le contexte. Diffusion, exactement. Exactement. Merci beaucoup d'être
Merci
venue, Carole Boinet.
Directrice de la rédaction des Inrocs, dont le numéro actuellement en kiosque est consacré aux États-Unis avec Taylor Swift. Donc, merci à toutes les deux.